Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. VIH, sida, dans ces deux termes, une lettre commune, une voyelle, le I, renvoie à l'immunité et précisément au risque de destruction des défenses immunitaires. Et cette immunodéficience ou immunodépression, cet affaiblissement des défenses naturelles, n'est pas seulement associé au sida. L'immunodépression est une réalité aujourd'hui pour de nombreux malades, certains diabétiques, des personnes atteintes de cancer, une immunité diminuée aussi par la malnutrition, par l'obésité également. Certains enfants naissent même immunodéprimés. Pour faire face à des maladies chroniques, comme pour éviter des rejets en cas de greffe, eh bien certains traitements impliquent de façon tout à fait délibérée une baisse de l'immunité. L'immunodépression impose des précautions particulières pour le patient, un suivi régulier et en cas de survenue d'une infection, une prise en charge renforcée pour soutenir son organisme désarmé pour lutter contre la maladie. Avec nous en studio, professeur Jean-Hugues Dalle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin greffeur au service pédiatrie de l'hôpital Robert Debré à Paris. À nos côtés également, docteur Philippe Arsac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en médecine interne avec orientation vers les maladies infectieuses et sida à l'Institut Fournier à Paris, enseignant à la chaire UNESCO de santé sexuelle. Également avec nous, le docteur Wenceslas Yaba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, expert en santé publique, directeur général adjoint du CHU de Libreville au Gabon et spécialiste du VIH. À la fin de l'émission, comme chaque vendredi, vous retrouverez le bulletin de santé pour passer en revue l'actualité médicale de la semaine écoulée dans le monde. Au programme aujourd'hui, le dernier rapport de l'OMS sur le paludisme et la polémique après le vote de l'Union européenne sur l'herbicide glyphosate. Pour témoigner, pour poser vos questions, le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 84 22 75 75. En ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, nous avons donc choisi de parler de l'immunodéficience, immunodépression, ce déficit des défenses naturelles, induit notamment par le VIH, VIH-sida, avec ce chiffre que donne l'OMS fin 2016 dans le monde. Plus de 36,5 millions de personnes étaient séropositives. Aujourd'hui, on vous propose donc d'élargir au-delà de ce seul syndrome d'immunodéficience acquise pour comprendre comment... Pourquoi les malades du sida se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité lorsqu'ils sont sans traitement face à la maladie? Alors, docteur Philippe Arsac, comment le VIH agit-il précisément sur l'immunité?
Le VIH agit sur... Alors, si vous voulez, pour recommencer, notre système de défense immunitaire comprend un certain nombre de cellules. Et ces cellules agissent contre des virus, contre des bactéries, contre des parasites. Le VIH... a une particularité, c'est qu'il va se fixer sur certaines cellules qui s'appellent les cellules CD4. Il va les détruire. Et la destruction de ces cellules CD4 va entraîner des infections graves qu'on appelle les infections opportunistes. Et ces infections opportunistes font rentrer le patient qui était porteur du VIH depuis parfois plusieurs années dans la phase sida.
Et c'est pour ça que les patients gardent en quelque sorte les yeux rivés sur ce fameux taux de CD4.
Voilà, tout à fait. Les CD4 sont le marqueur de la maladie. Ils ne sont pas le marqueur de l'infection. Ils sont le marqueur de la maladie. Quelqu'un qui a des CD4 à moins de 200 a de risques importants de tomber malade et d'être atteint par une tuberculose, une pneumocystose, une cryptococcose, etc.
Alors, un taux de TCD4 bas, docteur Wenceslas Yaba, qu'est-ce qui fait finalement qu'on passe d'une immunité faible au déclenchement du sida?
C'est, comme le disait le professeur, déjà le fait que nous ne serons pas dépistés, le dépistage est le nœud du problème. Quand vous faites dépister et que finalement on fait tous les tests immunologiques et virologiques, on voit tout de suite que votre taux de CD4 est bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi le fait qu'on peut être dans une vie sexuelle ou un fonctionnement, une hygiène de vie qui peut accélérer les choses. Mais le dépistage est le nœud du problème. Parce que c'est, quand on se dépiste et qu'on est pris en charge tôt et que sa charge virale devient indétectable tôt, on ne contamine plus. Et dans plusieurs cas, dans les couples sérodiscordants par exemple, on peut, excusez-moi, recommencer à avoir une vie normale avec sa conjointe, naturellement encadrée par le médecin traitant. Donc, le dépistage en Afrique notamment reste vraiment le talisman de l'évolution de ce grave problème de santé publique qui est encore entier dans nos pays. Et je remercie beaucoup votre radio d'en parler aujourd'hui.
Et on en reparlera encore toute la semaine prochaine à l'occasion de la conférence internationale ICASA d'Abidjan. Hein, 3 émissions spéciales consacrées justement au sida en Afrique. Docteur Philippe Arsac, qu'est-ce qui doit alerter, orienter vers un diagnostic d'immunodépression?
Alors, il peut y avoir des symptômes. Je pense à une infection qui est fréquente, c'est le zona. Je pense que quelqu'un qui a un zona ou quelqu'un qui a de l'herpès doit avoir un test VIH.
Ça veut dire que son immunité est faible.
Ça veut dire que l'immunité est faible. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a le zona qu'il a automatiquement l'infection par le VIH. Faut pas non plus raccourcir, mais ça traduit une baisse d'immunité.
Parce qu'il y a tout un tas de maladies qu'on dit auto-immunes qui affaiblissent les défenses naturelles et qui peuvent aussi conduire à être plus vulnérables à ce genre justement de virus.
Tout à fait. Par exemple, le stress est bien connu, peut déclencher le stress, un état de fatigue important peut déclencher un zona. Il y a aussi une infection qui est fréquente, c'est la candidose. La candidose, c'est une infection au niveau de la langue, qui parfois va jusqu'au niveau de l'œsophage, qui se voit facilement. On se regarde dans la glace, on voit sa langue très très blanche. Oh là là, c'est pas tout à fait normal, il faut consulter, il faut certainement aussi avoir un... Surtout si c'est des candidoses qui se répètent.
Professeur Jean-Hugues, juste un petit point quand même. Dans l'organisme, on a parlé tout à l'heure de ces lymphocytes, hein, mais quels sont les autres éléments de cet organisme qui sont mobilisés pour assurer l'immunité?
L'immunité, c'est, comme beaucoup de choses dans le corps humain, quelque chose d'extraordinairement complexe et fascinant, un corps humain dans sa complexité. Cette immunité, elle se décompose en immunité qu'on appelle innée. C'est ce qui existe chez le bébé à la naissance. Ce sont des barrières anti-infectieuses assez primaires, assez simples, mais indispensables et efficaces, avec d'autres types de cellules qu'on appelle les lymphocytes NK, par exemple. Et puis, il y a les lymphocytes T, les CD4, qui sont très centraux, qui vont vraiment être les chefs d'orchestre. Et quand un enfant naît sans CD4, il va être très profondément immunosupprimé. C'est ce qu'on appelle les bébés bulles, hein, qu'on va isoler très tôt, parce que sinon ils vont très vite être infectés de façon extrêmement sévère et éventuellement mourir de leur infection. Mais il y a à côté de ces lymphocytes CD4 d'autres lymphocytes qu'on appelle les CD8, et puis d'autres encore qui s'appellent les lymphocytes B. Et l'ensemble de ces cellules interagit, communiquent entre elles, de façon à construire une immunité globale, qu'on va appeler cellulaire. Certains lymphocytes vont aider à tuer les cellules infectées ou directement tuer les germes, virus, bactéries, champignons, parasites, tels que disait le docteur Arsac tout à l'heure. Et puis, d'autres lymphocytes vont produire des anticorps, qui sont un autre mode d'immunité, l'immunité humorale. Et c'est l'ensemble de cet orchestre immunitaire qui va permettre que nous vivions, lorsque l'on est immunocompétent, en bonne entente avec les microbes. Les microbes, ça fait partie de notre vie. Il ne faut pas tomber dans un hygiénisme inutile. Les microbes font partie de notre vie. On en a besoin, mais on a besoin, pour bien vivre avec les microbes, d'une immunité compétente.
Alors, on a bien compris, ça, ce n'est pas le cas quand on est immunodéprimé. Pour le cas du VIH ou du sida, quelle pathologie, justement, liée à l'immunodépression, docteur Wenceslas Yaba, vous êtes amené à voir lors des consultations sida en particulier, des personnes qui sont malades de quoi, finalement?
Alors, il y a les pathologies associées au VIH. La première pathologie associée au VIH, c'est la tuberculose. Et qui est vraiment saillante, puisque la personne pense qu'elle a d'abord une toux normale, une pneumonie, et puis finalement c'est une tuberculose. Mais je souhaitais dire quelque chose quand même de très important. Dans nos pays, il y a beaucoup de ruptures d'anti-tuberculeux. Ce qui fait que tous ceux qui ont la tuberculose n'ont pas forcément le sida. Ça, il faut le dire. En outre, dans le cadre, par exemple, du SAMU social que je dirige et qui s'est déployé au Gabon de manière formidable avec l'appui du SAMU social international, je remercie le docteur Emmanueli là-dessus, le gouvernement gabonais a permis cela. Nous avons trouver dans des cas d'immunité sur le terrain, par exemple, les personnes hypertendues, l'hypertension au Gabon notamment est quasiment épidémique. Les personnes diabétiques qui ont une immunité très faible, parce que quand nous les reprenons, d'ailleurs les personnes diabétiques et hypertendues qui n'ont pas accès aux soins, parce que ce sont des populations extrêmement démunies. Nous avons une cohorte aujourd'hui de personnes que nous trouvons, les enfants, nous trouvons des enfants qui sont dans des problèmes immunitaires graves, parce qu'ils n'ont jamais eu accès à l'hôpital. Et pour élargir notre sujet au-delà du sida, même si c'est la journée internationale du sida, il faut dire que la question de l'immunité, notamment en zone africaine, en tout cas dans les pays en voie de développement, est profonde et elle doit être vraiment traitée avec beaucoup d'acuité.
Avec une question centrale, hein, c'est la nourriture, la dénutrition, première cause d'immunodéficience dans le monde. Il faut le souligner, pas forcément la maladie, simplement manger à sa faim et manger correctement.
La dénutrition, la malnutrition et un autre point très important qui n'est pas encore dans le corpus africain, c'est les problèmes psychosomatiques, psychologiques. Trouver un psychologue, un psychiatre, au Gabon on a 4 psychiatres dans tout le pays, donc je peux vous dire que, or on sait très bien que l'état psychologique en Afrique, c'est une question de santé publique qui n'est pas vraiment prise en charge. Le psyché n'est pas vraiment encore pris en charge en Afrique, affecte durablement et profondément l'immunité.
Oui, docteur Wenceslas Yaba, docteur Philippe Arsac, professeur Jean Hudal, on va se retrouver juste après ce témoignage. Ce témoignage, c'est le vôtre. Morgane Lavigne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 35 ans, vous avez contracté le VIH il y a près de 18 ans maintenant, et vous militez au sein d'une association qui s'appelle comment ?
Gallon Brave.
Et ça veut dire quoi exactement ?
Cœur de Bretagne.
Alors pourquoi avoir monté cette association ?
Alors, il fallait monter cette association car déjà en Bretagne, une association de patients dans les Côtes d'Armor, ça n'existait pas. Mais vraiment pas du tout. Et lors de mon parcours, 12 ans après, j'ai eu un besoin à certaines réponses. Et il a fallu que j'aille jusqu'à Paris pour avoir ces réponses. Quand je suis montée à Paris pour connaître ces réponses, je me suis retrouvée dans une association avec plein de gens qui avaient cette pathologie. Et du coup, c'est la première fois que je rencontrais autant de gens comme moi, même si je n'aime pas trop ce terme. Et c'est vrai que j'ai eu une sensation qui était la première fois ressenti dans mon corps, vraiment, de me dire j'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin d'expliquer que je suis juste moi. Et c'était la première fois, et c'était en fin 2011. Et je suis malade depuis 99. Et du coup, j'ai voulu vraiment rapporter cette sensation aux gens des Côtes d'Armor et pouvoir essayer de créer ce lien qu'en fait on a à pouvoir échanger sans sentir différent.
Un espace de partage. Morgane Lavigne, vous êtes la mère de 4 enfants.
Oui.
Les débuts de votre maladie, c'est d'abord pour vous un affaiblissement spectaculaire, une perte de poids. Est-ce que vous pouvez revenir justement comment votre corps vous a dit que quelque chose n'allait pas ?
En fait, donc j'avais 17 ans et j'ai fait une primo-infection, ce qui veut dire en fait que le virus que j'ai reçu en moi était tellement fort par rapport à mon corps que mon corps a réagi dans les quelques semaines à suivre la contamination. Donc je suis devenue ouvertement une loque. Je ne marchais plus, j'étais en vacances en plus parce que c'était pendant l'été 99. J'étais en vacances en Angleterre et je ne pouvais vraiment plus marcher. Il a fallu qu'on revienne rentrer en France, qu'on fasse une batterie d'examens. J'avais très mal à l'estomac, je faisais un ulcère. De là, en fait, on m'a proposé de m'emmener aux urgences, parce qu'on ne trouvait pas, en fait, la finalité. Et aux urgences, c'est là, 2 semaines à peu près plus tard, parce qu'on essayait de toucher moi sans aller à l'hôpital, qu'on m'a proposé de faire ce dépistage. J'ai bien sûr dit oui. Et là, on m'a emmené au service gastro, parce que dû à mon ulcère. Et 2 jours plus tard, à peu près, une infirmière est montée et m'a dit, voilà, elle a tiré le rideau, parce qu'il y avait une autre personne dans la chambre avec moi, et m'a dit, voilà, vous avez le VIH. Et je l'ai pris, j'ai rigolé, j'ai souri à la vie, parce que j'avais que 17 ans, et que j'étais quelqu'un de vive, joyeuse, qui avait de l'ambition dans la vie, dans mes études, et dû à un acte pas voulu, en plus, voilà, ma vie change, mais c'est ainsi. Mais j'étais en France, c'est ce que je lui ai dit à la dame, je lui ai dit j'ai de la chance, on est en France, il y a la trithérapie qui vient d'arriver, j'ai pas dit trithérapie parce que j'avais pas le mot, mais il y a des cachets, je suis en France, je vais être traitée.
Et justement, entre les traitements des débuts et ceux d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour vous ?
Alors, à 17 ans, je suis retournée à l'école à la rentrée d'après. Donc, j'avais perdu du coup du poids dû à l'hospitalisation, parce que j'adore manger et qu'un mois à l'hôpital,
moins bien.
C'est ça. Et j'ai du coup, c'est pour ça surtout la perte de poids. Et j'ai perdu des cheveux, par contre, dû à la trithérapie. Donc, quand je suis sortie, ça s'est tout de suite dit, parce que chez moi, c'est un peu rural et les choses se Voilà, elle a perdu du poids, elle a perdu des cheveux, connotation. Et donc je suis allée quand même à l'école avec 17 cachets par jour au frigo pour ceux de 10h et 15h. Donc j'avais 8h, 10h, 15h, 20h et 22h de prise de cachets. J'avais 17 cachets par jour.
Aujourd'hui ?
Deux.
Et ces traitements, ce suivi, quel contrôle justement sur votre immunité ? C'est quelque chose que vous suivez au jour le jour, mois à mois ou tous les 6 mois ?
Ouais, tous les 6 mois à peu près, oui. Maintenant, je vais tous les 6 mois. C'est vrai que bon, je suis maintenant présente relativement souvent dans le service puisque je fais des actions dans le service pour justement les gens se créent du lien parce que c'est pas évident. Mais c'est, ma charge virale, je la suis tous les 6 mois. Oui. J'ai une prise de sang tous les 6 mois.
4 grossesses, Morgane Lavigne, des naissances par césarienne. Comment ce désir d'enfant que vous avez pu concrétiser a été perçu par le milieu médical ? Par exemple, comment est-ce que vous avez été accueillie à la maternité ?
Alors déjà, quand je suis tombée enceinte, c'est vrai qu'on était au début de la trithérapie. Donc les médecins ont vraiment essayé que je ne le garde pas. Je pense que c'était peur des effets de la trithérapie, ne les connaissant pas, et que j'avais que 17 ans. Enfin, 18 quand je suis tombée enceinte, et que pour eux, je pense que c'était peut-être gâcher ma vie aussi, hein, avec le recul. Ils m'ont dit oui, on ne connaît pas les effets, elle pourra être handicapée. Moi, c'était pas possible. En fait, cet enfant était là, ce serait peut-être le seul que j'aurais dans ma vie. J'avais un oncle médecin, ma marraine chef ergothérapeute dans la région. J'avais un soutien quand même dans ma tête. Donc, je me suis dit tout simplement, si moi j'y arrive pas, personne n'y arrivera.
Les bébés ont été pris en charge aussitôt après leur naissance, j'imagine. Chacun ont été ont pris le traitement post-exposition.
C'est ça. Alors, ils ont eu de la ZT. Donc, en fait, moi, j'ai eu une césarienne parce que je n'étais pas tout à fait indétectable. Ce serait actuellement, j'aurais accouché par voie basse, mais en 2000, c'était non. Donc, j'ai eu 4 césariennes parce que j'en ai une. Ce qui s'est passé avec ma première fille, c'est que tout de suite, je l'ai ressenti, la discrimination. Je n'avais pas le droit de sortir de ma chambre, j'avais des sacs poubelles qui ont trié tout ce que j'avais, j'avais des assiettes en plastique. Et comme j'avais une césarienne en fin de journée, normalement, on prend l'enfant pour soulager la maman la première nuit. Et moi, on m'a clairement dit que non. Dû à ma pathologie et au protocole, on ne peut pas car ça peut se transmettre d'un berceau à l'autre.
Ce qui est faux, hein, il faut le dire.
Tout à fait.
Il n'y a aucune transmission par voie aérienne et ça, c'est clair et établi.
Tout à fait. Et du coup, en fait, quand j'ai entendu ça et qu'on a mis une tétine dans la bouche de ma fille alors que je ne pouvais rien faire car j'étais encore sondée, enfin, j'avais branché, c'est là, en fait, où j'ai vraiment eu le plus de mal dans ma tête. C'était pas de subir moi, mais que mon enfant subisse alors qu'il n'avait rien demandé et qu'en plus, on n'est même pas sûr qu'il ait quelque chose. Ça a été ça le plus dur pour moi.
Aujourd'hui, vous allez bien ? Vos 4 enfants vont bien ?
Tout à fait.
Merci beaucoup, Morgane Lavigne. Je pense que c'est la meilleure conclusion. Merci pour ce témoignage. Témoignage portrait parmi 15 voix qui s'expriment dans le livre « Portrait de vie » publié aux éditions du Cherche Midi. Vie orthographiée V-I-H-E-S, illustré des photos très sensibles de Patrick Messina. Merci beaucoup.
De rien.
Témoignage de Morgane Lavigne, séropositif sous traitement. Comment, justement, les traitements actuels du VIH, docteur Philippe Arsac, agissent-ils sur la charge virale, donc sur l'immunité, avec des effets, on l'a entendu, très concrets pour limiter, voire annuler, par exemple, pour les risques de transmission de la maladie de la mère à l'enfant?
Alors, les traitements antiviraux dont on dispose actuellement sont très efficaces. Ils sont aussi simples et avec peu d'effets secondaires. C'est-à-dire que c'est un comprimé par jour, dans certains cas, bien entendu. Comment marchent ces médicaments ? Eh bien, ils bloquent la multiplication du virus. Donc, le virus reste dans l'organisme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais en revanche, il n'y a plus de virus ou beaucoup moins de virus circulant dans le sang, beaucoup moins de virus au niveau des sécrétions vaginales et beaucoup moins de virus dans le sperme. Il devient ce qu'on appelle indétectable.
Vous restez avec nous, hein, docteur Philippe Arsac, professeur Jean-Hugues Dalle, Wenceslas Ciabat, docteur, toujours hein, pour parler de l'immunodéficience. On va parler des immunodépressions provoquées hein, dans le cas de certaines thérapies, de certains protocoles. Et puis, hein, je vous rappelle, cette information Priorité Santé sera à partir de mardi à Abidjan, à l'occasion de la conférence ICASA 2017, conférence sur le sida en Afrique, avec pour cette 19e édition comme thématique l'Afrique, une approche différente vers la fin du sida. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on retrouve nos invités en studio pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée à l'immunodéficience.
dépression, un système immunitaire affaibli par des maladies ou des infections comme le VIH ou même l'obésité, le diabète ou encore certains cancers. On en parle avec nos invités en studio. Dr Wenceslas Siaba, épidémiologiste, directeur général adjoint du CHU de Libreville au Gabon. Dr Philippe Arsac, spécialiste en médecine interne avec orientation vers les maladies infectieuses et SIDA à l'Institut Fournier à Paris. Et puis le professeur Jean Hugdal, médecin greffeur du service pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris. L'immunodépression, c'est donc à la fois une maladie et un facteur de risque. Et ce déficit immunitaire, eh bien, il peut être subi ou bien provoqué. Professeur Jean Hugdal, aussi étrange que cela puisse paraître peut-être aux yeux du grand public, eh bien, dans certains cas, les médecins décident d'affaiblir, voire essayer carrément de détruire cette immunité.
Effectivement, on a deux grandes situations, je pense, au niveau médical, où on va induire une immunodépression volontairement. C'est soit lorsque le système immunitaire du patient s'emballe, c'est-à-dire est présent, mais ne travaille pas bien, et va finalement avoir des effets délétères sur l'organisme de la personne. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, qui peuvent toucher à peu près tous les tissus de l'organisme. C'est par exemple la maladie de Crohn, c'est par exemple certaines sarcoïdoses. Enfin, il y a beaucoup de maladies auto-immunes.
Des maladies rhumatismales aussi,
maladies
très nombreuses.
Des maladies rhumatismales qui décrivent en fait donc un dysfonctionnement du système immunitaire, non plus, qui ne se dirige plus vers les agents pathogènes, mais vers l'organisme auquel le système immunitaire appartient. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut brider ce système immunitaire pour essayer de diminuer les symptômes de la maladie auto-immune. Mais en diminuant cette activité du système immunitaire, cette mauvaise activité du système immunitaire, on va aussi diminuer la bonne activité du système immunitaire. Donc on va rendre ces patients fragiles vis-à-vis des infections, et c'est là où c'est très intéressant, où on boucle finalement les choses avec nos collègues qui traitent des patients atteints de VIH, parce que ces collègues-là ont été finalement avant-coureurs, nous ont apporté une connaissance sur l'immunité, une connaissance sur les infections opportunistes, et nous avons des pathologies en commun, la tuberculose, la pneumocystose par exemple, qu'on a appris à reconnaître et à traiter grâce à eux, grâce à leurs avancées dans la prise en charge des patients VIH. Et puis, il y a une autre circonstance, c'est essentiellement dans la greffe d'organes, solides, reins, foie, cœur, ou greffe de moelle, en ce qui me concerne, où pour faire accepter le greffon, il va falloir, de façon temporaire, en greffe de moelle, ou de façon à vie, en greffe d'organes solides, diminuer les défenses immunitaires du patient greffé pour lui permettre d'accepter ce greffon et que ces deux individus, en quelque sorte, cohabitent de façon harmonieuse dans un seul organisme.
Quelles précautions à prendre, Dr Wenceslas Siaba, dans la vie de tous les jours pour un patient immunodéprimé, peut-être pour lui et aussi pour son entourage?
Ben, écoutez, les précautions d'hygiène sont vraiment, je vais dire, centrales. Un patient immunodéprimé, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence ou plus grand, doit se laver les mains plusieurs jours. Et quand cette personne éventuellement est dans un affaiblissement de son état de santé, constaté par un médecin ou non, mais doit immédiatement se faire tester. Il y a des tests humoraux qui existent pour détecter une baisse de l'immunité, même si ce n'est pas lié à une pathologie particulière. Et je souhaiterais d'ailleurs, à ce sujet, rebondir sur un point très important. J'ai entendu le docteur le dire tout à l'heure. Il y a des co-infections, par exemple, dans le VIH, co-infections avec les co-infections hépatite VIH, qui sont très courantes en Afrique, mais vraiment très courantes. Moi, je les vois dans le cadre du SAMU social, où je les vois au CHU, et nous n'avons pas une technicité médicale, médico-chirurgicale assez aboutie pour faire des greffes, par exemple, de foie, au Gabon. Or, les patients que moi je vois, souvent, les trois quarts sont des patients pauvres, qui sont dans l'alcoolisme. L'alcoolisme, le tabac, sont des prédicats de la pauvreté, en tout cas des personnes démunies. Un patient pauvre qui a une hépatite, qui en plus cette hépatite est liée à un VIH qui n'est pas encore décelé, je peux vous dire que c'est dramatique. Donc effectivement, en termes de, voilà une question qui lie notre, qui lie notre émission dans tous les sens du terme. On parle de greffe dans la question de la co-infection VIH-hépatite. On parle du VIH lui-même et avec son corollaire vraiment important qu'est la pauvreté, qu'est le manque de moyens des populations les plus vulnérables en Afrique surtout, où naturellement l'accès aux soins, le corpus de santé publique n'est pas encore abouti, est un réel problème et je pense que nous allons aboutir à la fin de cette émission aux conclusions liées finalement à ce que l'immunité est certes centrale en termes immuno-virologiques ou scientifiques ou médical pur, mais c'est aussi une vraie question de santé publique.
Se protéger dans un environnement aussi qui permet d'être protégé. Il y a un moyen très simple de se protéger, hein, docteur Philippe Arsac, on le dit pas assez souvent, y compris pour les personnes immunodéprimées, c'est se faire vacciner contre certaines maladies.
Tout à fait, je voulais qu'on arrive sur ce sujet. La vaccination est effectivement un élément très important de la prévention des infections chez l'immunodéprimé. On n'a pas parlé d'un certain mode d'immunodépression, c'est chez les drépanocytaires ou chez les personnes qui n'ont plus de rates, qui ont été opérées. Et là, c'est important aussi qu'ils soient vaccinés contre un certain nombre d'infections. Il faut que ce soit fait toujours sous contrôle médical, bien entendu.
Parce qu'il y a certains vaccins qui sont incompatibles.
Voilà, il y a certains vaccins qui ne peuvent pas être administrés, notamment les vaccins à base de virus vivant atténué.
La fièvre jaune,
le BCG, le rougeole rubéole oreillon, entre autres, et certains vaccins contre la grippe qui ne sont pas atténués. Mais globalement, actuellement, les vaccins sont atténués.
Par contre, les autres grandes pathologies, on va dire diphtérie, tétanos, polio... Pas de problème pour la vaccination.
Hépatite.
Et la grippe aussi, c'est très important.
La grippe, l'hépatite B, l'hépatite A.
Les méningites. Les pneumocoxies.
Tout à fait, ça c'est très important. Alors parfois, la réponse est moins importante que chez l'immunocompétent, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de déficit immunitaire, auquel cas on fait des rappels supplémentaires. Mais là, il y a des protocoles qui sont bien établis.
Professeur Jean Hugdal, lorsqu'une infection malgré tout se déclare chez un patient immunodéprimé, qu'est-ce qui se passe tant au niveau de l'organisme que, j'ai envie de dire, de la réaction médicale? Qu'est-ce que ça impose comme protocole? Peut-être une antibiothérapie particulière dans certains cas?
Effectivement, en règle générale, ça, ce que disait notre confrère de Libreville, c'est d'abord une réaction extrêmement rapide. Ça nécessite une éducation, ce qu'on appelle à l'heure actuelle de l'éducation thérapeutique, une appropriation par le patient, ou en ce qui me concerne, puisque je suis pédiatre, par son entourage, par ce qu'on appelle les aidants, de ce qu'est l'immunosuppression et les réflexes qu'elle doit accompagner, par lesquels elle doit être accompagnée. Et notamment, effectivement, une fièvre banale chez un immunocompétent, ça doit déclencher une série de réactions rapides chez l'immunosupprimé. J'ai pour habitude de dire à mes patients ou aux plus jeunes médecins qui travaillent dans le service, on a connu il y a 15 ans la campagne d'information extraordinairement importante d'un point de vue santé publique. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Non, les antibiotiques, c'est pas automatique, parce que sinon, ça confine aux résistances et que beaucoup d'infections n'ont pas besoin d'être prises en charge par des antibiotiques parce qu'elles sont virales. Par contre, chez l'immunodéprimé, la fièvre, les antibiotiques doivent être automatiques.
Systématiques.
Et on réfléchit après. Peut-être qu'on va pas les poursuivre, ces antibiotiques, mais la personne est en danger à cause de son immunosuppression et elle va devoir recevoir des antibiotiques.
Il y a une vraie question, c'est l'observance. Hein. En particulier, si on parle des adolescents, cet âge-là, c'est l'âge de toutes les résistances. Ils ont pas forcément conscience des risques, parce qu'on peut être immunodéprimé, on l'a dit, et très bien portant. Et à ce moment-là, de dire, tu as des précautions à prendre, il faut faire attention à toi. Professeur Jean Hugdal, le message ne passe pas forcément.
Non, l'adolescence, c'est une période de la vie qui est très particulière. Merveilleuse parce qu'on s'ouvre à l'autre, parce qu'on s'émancipe de ses parents, parce qu'on se croit invulnérable et qu'on l'est pas nécessairement. Ça nécessite, et c'est le cas en tout cas effectivement dans nos pays développés, et j'espère que très rapidement les pays moins avancés vont entrer dans ce parcours, c'est l'identification de parcours de soins dédiés à cette population particulière d'adolescents, jeunes adultes, qui nécessite une prise en charge particulière. Mais je pense que nos collègues qui traitent le VIH connaissent ça, parce que c'est l'âge de l'entrée dans la vie sexuelle, et donc c'est un âge d'extrême vulnérabilité, et vous avez raison. C'est plus compliqué, ça nécessite des prise en charge dédiée à ces patients-là, probablement ça nécessite plus de tolérance de la part du discours médical, dont acte. Il va y avoir une moins bonne observance, dont acte, il y a ce que nous appelons la période de transition entre la prise en charge en pédiatrie puis la prise en charge en milieu adulte. Le contact avec le médecin n'est pas le même, la triangulation médecin-patient-pédiatrique-parent disparaît au profit d'une confrontation duelle médecin-patient, et c'est la période de tous les dangers. Et bien sûr, et l'observance thérapeutique, de toute manière, pour toute pathologie chronique, quel que soit l'âge considéré, c'est extraordinairement difficile. Prendre un médicament tous les jours, toute sa vie, c'est extraordinairement complexe. Même quand vous avez un bac plus 25,
il y a des échecs. Peut-être même plus, on se croit plus fort que tout, et des fois on fait n'importe quoi. Docteur Philippe Arsac, oui, vous vouliez réagir.
Je rajouterai sur l'observance, comme dit mon collègue. Ce qui est important, c'est de savoir que dans le VIH en particulier, l'observance est fondamentale. Parce que quand quelqu'un arrête son traitement, le risque, c'est de voir réapparaître le virus dans le sang, donc dans les sécrétions vaginales, donc dans les spermes, et donc de recontaminer. Ça, c'est très important.
Il y a un élément dans cette immunité qu'on n'a pas abordé, docteur Philippe Arsac, c'est pas forcément directement de l'immunité, c'est la peau. La peau, c'est une barrière qui protège des infections. Et justement, quand on est immunodéprimé, chaque lésion peut devenir potentiellement très dangereuse. Alors, faut soigner tout petit bobo, on a envie de dire.
Effectivement,
hein.
Effectivement, c'est un élément, c'est une barrière mécanique. Et c'est très important, en particulier chez un immunodéprimé qui est diabétique. Les diabétologues savent très bien qu'il faut se bagarrer pour que les diabétiques soignent leurs pieds, parce qu'on sait très bien que, par exemple, les amputations vont partir d'une infection au niveau des pieds.
Parce qu'il y a une atteinte neurologique qui fait qu'il y a moins de sensibilité, on ne sent pas forcément les blessures et on laisse les choses dégénérer.
Tout à fait. Donc si on laisse dégénérer ne serait-ce qu'une mycose, ne serait-ce qu'une plaie, entre la mauvaise vascularisation, c'est mal irrigué, c'est mal oxygéné, les douleurs qui ne sont pas perçues, on arrive rapidement à des amputations. C'est pour ça que les diabétologues doivent et le font examiner les pieds régulièrement et entretenir.
Et de la même façon, hein, docteur Wenceslas Yaba, chez certaines femmes, quand il y a par exemple des lésions dans l'appareil génital, cela rend encore plus vulnérable aux contaminations. C'est quelque chose qui fragilise l'organisme féminin.
D'abord, qui fragilise la flore vaginale, qui est très sensible, donc qui cause des vrais problèmes gynécologiques. Mais dans le cas du VIH, c'est terrible. Déjà, sans lésion, les sécrétions vaginales sont contaminantes. Le contexte féminin en Afrique fait que la femme est encore beaucoup plus vulnérable parce qu'elle n'a pas de moyens.
Les chiffres, c'est trois fois plus de jeunes femmes contaminées que les jeunes hommes. Comment on explique au grand public ce chiffre qui paraît tout à fait incroyable ?
Bah écoutez, c'est déjà la sensibilité de l'appareil génital féminin lors de la contamination. J'ai pas envie de refaire le geste du rapport sexuel, mais il faut simplement l'imager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi le fait que généralement dans la culture africaine, la femme est quand même parfois, selon certains cas, sous contrôle. Donc quand elle va à l'hôpital, elle a très peur de, quand elle a des démangeaisons, quand elle a un herpès, elle va quand même avoir un secret là-dessus. Et dire un point important qui va vous surprendre peut-être. Les femmes sont plus observantes que les hommes, quasiment deux fois plus. Les femmes respectent leur traitement, sont observantes de telle sorte qu'elles sont rapidement, ce sont les premières à avoir les charges virales indétectables. Je tenais à préciser, conscient de ce que le professeur a dit, et que c'est quand même aujourd'hui la journée internationale du sida, journée mondiale du sida, le taux d'observance d'un VIH+, doit être de 95% au moins.
Ça veut
95%
dire...
au moins de respect du traitement.
Ça veut dire ne jamais, pour parler simplement, on n'oublie pas ses cachets, quoi qu'il arrive.
Ne presque jamais l'oublier, il faut que ce soit un oubli strictement involontaire. Parce que si on a une résistance, on passe à une autre ligne de traitement. Et quand on n'a plus de ligne de traitement à vous donner, pour vous maintenir en vie, c'est très compliqué parce que l'immunité, puisqu'on est dans un sujet immunitaire, baisse. Et c'est aussi l'une des causes de mortalité des patients VIH, dès qu'il y a des échecs thérapeutiques. Et l'observance est très importante. Chez les femmes, je tiens à le dire, donc on est aujourd'hui dans la décennie de la femme, on est dans l'approche genre, les femmes sont plus observantes que les hommes. Et d'ailleurs, plus sérieuses dans le comportement post-VIH dans le couple, dans le fonctionnement sexuel, et merci aux femmes d'ailleurs dans la lutte contre le sida en Afrique.
Et encore, hein, on le redit, hein, c'est ce point très, très important, toujours primordial en cette journée de lutte contre le sida, c'est le dépistage des femmes plus observantes. Encore faut-il se faire dépister avec ce grand danger du retard de diagnostic. On l'a compris, toute l'immunité des personnes est en jeu et certaines personnes ont déjà un taux de cellules immunitaires très faible et souffrent déjà d'une infection opportuniste grave en apprenant qu'elles ont le VIH. Donc, importance de ce dépistage précoce.
Priorité santé sur RFI.
1er décembre, la ville de Paris inaugure aujourd'hui une nouvelle unité de dépistage du VIH. Justement, on en parle tout de suite avec vous. Anne Souiris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé. Initiative conduite avec l'association Afrique Avenir, lutte contre le VIH et lutte aussi contre les discriminations. C'est très important.
Oui, c'est très important parce que la discrimination est vraiment un facteur de non-soins et de non-diagnostic parmi les gens qui sont les plus touchés, en particulier les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc c'est pour ça que nous avons voulu faire une action très spécifique toute l'année. Nous allons continuer de ce côté-là, pas seulement auprès d'ailleurs des populations afro-caribéennes, mais aussi auprès des hommes homosexuels ayant des rapports homosexuels avec les hommes, parce que c'est les deux populations qui sont le plus touchées par le sida à Paris et qui ont le plus de mal à se faire diagnostiquer actuellement, en tout cas psychologiquement.
Alors justement, comment cette nouvelle unité cible particulièrement ce public particulier, donc notamment la population afro-caribéenne ?
Alors nous avons contribué à financer une unité mobile qui est, parce qu'en fait ils en avaient déjà eu une, Afrique Avenir avait déjà eu une unité mobile, mais qui avait été brûlée de manière criminelle l'année dernière. Et donc nous avons souhaité financer une nouvelle unité mobile qui permet d'aller à la rencontre des personnes dans les quartiers où ces communautés sont très importantes, comme par exemple le 18e ou vers la gare du Nord à Paris.
Alors,
l'unité mobile fait du dépistage rapide et permet de pouvoir avoir non seulement des résultats rapides, mais aussi de pouvoir du coup orienter les personnes vers le soin et permettre que tous les gens soient vraiment au mieux, non seulement informés, mais puissent être vraiment pris en charge par la sécurité sociale.
Dépistage rapide, ça veut dire concrètement des autotests de dépistage distribués, c'est bien ça ?
Non, ça veut dire des dépistages faits directement dans l'unité mobile avec un résultat très rapide qui permet de pouvoir tout de suite orienter les personnes. Et c'est fait par les professionnels.
Orientation vers d'autres structures médicales fixes pour celles-ci.
Voilà, exactement. Dès qu'on voit qu'il y a évidemment un résultat positif, l'important c'est que les personnes puissent être suivies de manière continue. Ce n'est pas l'unité mobile qui va continuer de soigner, ça n'est pas tout le sujet. L'important c'est que ce diagnostic puisse permettre immédiatement une prise en charge. Et en général, comme on sait maintenant quand même que le sida, on n'en meurt plus une fois qu'on est dépisté, une fois qu'on est soigné, on peut vivre complètement normalement. Et d'avoir ce lien direct et cette parole directe permet vraiment que ce soin puisse se faire et que les gens ne restent pas dans la nature, non seulement sans savoir qu'ils sont malades, mais du coup, pouvant vraiment non seulement contaminer les autres, mais aussi ne pas être soigné, donc effectivement mourir. Parce que quand on ne se soigne pas, on peut en mourir toujours du sida.
Information, prévention, dépistage, merci beaucoup. Hein. Anne Souiri, je rappelle que vous êtes l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé. Merci à vous, messieurs. Docteur Philippe Arsac, spécialiste en médecine interne avec orientation vers les maladies infectieuses et sida à l'Institut Fournier à Paris. Docteur Wenceslas Yaba, épidémiologiste, directeur général adjoint du CHU de Libreville au Gabon. Et à vous, professeur Jean Hugdal, médecin greffeur du service pédiatrie de l'hôpital Robert Debré à Paris.
Bulletin de santé.
On se retrouve pour ce tour d'horizon de l'actualité médicale et sanitaire de la semaine écoulée. Un rendez-vous que nous vous donnons chaque vendredi avec à la une de ce bulletin de santé du 1er décembre les chiffres du sida en France. Ils ont été publiés par l'Agence nationale de santé publique. 6000 nouveaux cas pour 2016, des dépistages toujours plus nombreux, près de 5,5 millions réalisés par les laboratoires d'analyse, plus de 56 000 tests rapides effectués là au sein de structures associatives. Et puis, s'ajoutent à ces chiffres encore 74 650 autotests vendus en pharmacie. Le rapport 2017 sur le paludisme publié par l'Organisation mondiale de la santé, 216 millions de cas en 2016, soit 5 millions de plus qu'en 2015. La maladie parasitaire tue un enfant de moins de 5 ans toutes les 2 minutes, avec au total pour l'année dernière 445 000 morts. L'OMS pointe l'insuffisance de financement tant au niveau national qu'international. Et c'est l'Afrique qui paye le plus lourd tribut en concentrant 91% de l'ensemble des décès dus au paludisme. Un point maintenant sur l'épidémie de peste à Madagascar avec cette annonce des autorités malgaches. C'était lundi dernier. L'épidémie de peste pulmonaire est terminée dans les zones urbaines. Fin donc de cette flambée épidémique, même si d'autres cas sont encore attendus jusqu'au mois d'avril prochain, c'est-à-dire au terme de la saison à risque. Le dernier bilan de cette épidémie de peste dépasse les 200 morts sur la grande île de l'océan Indien. En Syrie, l'UNICEF alerte sur le sort des enfants de la Ghouta orientale, une région rebelle de la périphérie de Damas, la capitale, une zone assiégée. Elle a d'ailleurs encore été bombardée en milieu de semaine. Sur place, la population fait face à la pire crise de malnutrition depuis le début de la guerre en 2011. Près de 12% des enfants de moins de 5 ans y souffrent de malnutrition sévère et 500 personnes doivent être évacuées en urgence. C'est ce que dit le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU. C'est un feuilleton qui a pour cadre Bruxelles, mais aussi les capitales européennes et la ville de Saint-Louis dans le Missouri, siège de la multinationale américaine Monsanto. Le feuilleton du glyphosate, cet herbicide controversé, classé cancérigène par une branche de l'Organisation mondiale de la santé, l'expiration de la licence d'exploitation de ce produit phytosanitaire en Europe approchait. Et la Commission européenne, la Commission de Bruxelles, a voté en faveur du renouvellement de cette autorisation pour une durée de 5 ans. Un vote contre l'avis de la France, notamment. Et le président Emmanuel Macron compte d'ailleurs confirmer l'abandon de l'herbicide sur le territoire plus tôt que cela, dans les 3 ans qui viennent. Alors aujourd'hui, y compris en France, le glyphosate, produit donc et vendu par la multinationale Monsanto, est toujours très utilisé par les agriculteurs. Agnès Rougier.
Si le glyphosate est un désherbant efficace, sa toxicité pour les humains est l'enjeu d'une controverse scientifique sur laquelle se sont appuyés les eurodéputés pour voter. Nadine Noverja de l'association Génération Future.
Il y a une recherche, une expertise qui a été menée par l'INSERM en 2013, la recherche médicale française, qui montrait des liens de causalité entre l'exposition aux pesticides et un certain nombre de pathologies chez les utilisateurs professionnels, et notamment certaines pathologies comme le lymphome non hodgkinien et la maladie de Parkinson.
Les preuves à charge semblent donc accabler le glyphosate. Mais quand on sait qu'il s'agit de l'herbicide le plus vendu au monde, l'enjeu financier suscite des réactions de la part de son fabricant. Éric Andrieux, eurodéputé du Parti Socialiste, a voté contre.
Depuis le début, la controverse, c'est l'avis donc à la fois du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui avait émis un avis en mars 2015, donc la molécule était cancérogène probable pour l'homme. Et donc, en novembre 2015, l'Agence européenne, l'EFSA, a émis un avis contraire en disant que la molécule n'était pas cancérogène pour l'homme. Or, l'étude de l'EFSA est controversée parce qu'elle a été confiée à un cabinet d'études allemand qui a fait un copier-coller sur des études faites par la multinationale Monsanto.
Et voilà comment Monsanto a gagné cette manche. Prochain vote européen dans 5 ans, mais d'ici là, si le président Macron tient ses engagements, la France ne devrait plus utiliser de glyphosate sur son territoire.
Les pesticides dans l'air, cette fois. À compter de l'an prochain, leur niveau sera mesuré par les associations de surveillance de la qualité de l'air. Cette campagne sera notamment pilotée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, affirme qu'il est à ce jour impossible d'établir un lien de causalité entre le lévothyrox et la mort de 14 patients prenant ce médicament pour la thyroïde, certains étant atteints de graves pathologies chroniques. chronique. C'est le magazine Hebdo qui s'était fait l'écho de ces décès. Depuis le changement de formule du Lévothyrox, fin mars, des milliers de personnes ont dénoncé ces effets indésirables, parfois graves. Le Lévothyrox est aujourd'hui prescrit à près de 3 millions de malades en France. Cette annonce porteuse d'espoir, un champignon pourrait aider à combattre de graves maladies génétiques. Il s'agit de recherches très sérieuses menées par l'INSERM avec le CNRS, l'Institut Pasteur et l'Université de Lille, ainsi que le Muséum d'Histoire Naturelle. Le nom de ce champignon, le Lepista inversa, en latin dans le texte, qui agit pour rétablir des mutations cellulaires impliquées notamment dans des maladies comme la mucoviscidose ou encore la myopathie de Duchenne. Ce champignon, appelé aussi clitocybe inversé, est très courant. Il est comestible. Reste que les étapes pour aboutir à une stratégie thérapeutique seront encore longues. C'est ce que dit Fabrice Lejeune, chercheur à l'INSERM et contributeur de ces recherches. Et puis, le mois sans tabac, c'est fini. On est le 1er décembre. Plus de 157 000 personnes se sont inscrites pour cette deuxième édition en France. Bel engouement collectif, selon les organisateurs. C'est la fin de notre bulletin de santé. Restez avec nous sur RFI. Et notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Lundi, dans Priorité Santé, vous retrouverez Diara Ndiaye derrière ce micro. Émission intitulée « Bien se comprendre pour mieux se soigner ». Et on vous rappelle qu'on vous retrouve mardi à Abidjan pour suivre la conférence ICASA sur le VIH en Afrique. Si vous voulez témoigner, posez vos questions. Notre numéro 33 1 84 22 75 75.